Nous, on avait choisi un équipement plus petit pour justement brasser plus souvent, donc d'avoir plus de diversité sur le menu, puis qui nous a bien servi, parce que c'est pour ça qu'on a pu se lancer dans toutes sortes de bières.
Sur le comptoir de Lisanne, c'est le podcast dans lequel on parle de la bière autour d'une bière. Chaque semaine, je rencontre un ou une invitée avec qui j'explore la bière dans tous ses styles, ses influences, son évolution, son histoire et sa culture. Je suis Lisanne Desroches, brand ambassadrice Ninkasi. Dans ce hors-série, je vous amène avec moi, dans mes bagages, à la découverte de ma terre natale, le Québec. Dans cet épisode, j'ai eu la chance d'échanger avec JF, le fondateur de la mythique brasserie Dieu du Ciel, sur l'histoire du brewpub et leur bière emblématique. Ce podcast a été enregistré dans leur pub, situé sur la rue Laurier à Montréal, pour vous donner une vraie expérience immersive. Bonjour JF.
Bonjour, bonjour.
Merci de m'accueillir au brewpub de Dieu du Ciel à Montréal.
Ben ça fait plaisir d'avoir de la visite.
Oui, depuis tellement d'années là.
Surtout qu'on a eu beaucoup de mois sans visite, et donc on est vraiment tout excité, toi, qu'on a quelqu'un d'extérieur, parce que wow, on est encore sous la map.
C'est ça. Alors, avant de vraiment aller dans le vif du sujet sur parler de la brasserie Dieu du Ciel, moi j'aimerais poser une question un petit peu plus personnelle et savoir comment toi tu es tombé dans la bière.
Je suis tombé vraiment dans la bière par un peu en deux étapes. L'intérêt de la bière, c'est je compte souvent une histoire qui est vraiment, c'est une histoire véridique, tu sais, parce que des fois il y a des gens qui ont des histoires qui sont pas vraies, mais les miennes sont toujours vraies. Donc c'est ça, c'est bon, ado, chez nous c'était quand même ouvert de goûter à du vin, à de la bière, tout ça. Puis j'ai parlé avec un oncle qui avait beaucoup voyagé, tout ça, puis je dis j'aime bien le goût de la bière, tout ça, puis il me pose une simple question: tu préfères les ales ou les lagers? Ouf, je savais pas de quoi qu'il parlait, mais pas du tout, t'sais. Fait que rapidement, je me suis dit, OK, je me suis intéressé un peu à ça, puis parfait. Fait que j'ai réussi quand même à goûter une lager allemande qui goûtait nettement différent de nos lagers nord-américaines ou nos ales nord-américaines. Puis bon, ça a un peu semé déjà cette espèce d'intérêt que de la bière, ça a du goût. Et puis là où vraiment ça a embarqué très fort, moi j'ai toujours aimé j'ai étudié en sciences, j'ai commencé une maîtrise en microbiologie parce que j'aime les fermentations. C'est vraiment l'aspect des sciences qui m'intéresse le plus. Quand j'étais au cégep, j'ai eu la chance de croiser quelqu'un qui faisait sa bière à la maison, tu sais, puis je suis comme, on connaissait tout un homme qui faisait du vin à la maison, mais avec des résultats plus ou moins heureux. Mais la bière en avait un peu moins, mais j'ai goûté à sa bière, puis c'était quand même vraiment pas pire. Puis, rapidement, il faut dire, quand il m'a dit, ça coûte vraiment pas cher, t'es étudiant, t'as pas trop d'argent, c'est comme, ça pourrait être une façon cool de faire la partie, tu sais. Puis je vais l'essayer une fois, puis le procédé vraiment, de fermentation m'a tout de suite allumé. Puis après une couple de fois, tu sais que ta bière est pas pire, mais tu te dis, ça serait le fun qu'elle soit bonne, en fait.
Oui, parce que les débuts, c'est pas toujours réussi.
Des fois, c'est trop fruité, c'est trop atténué. C'est surtout quand c'est des à base d'extrait, il y a beaucoup de sucre là-dedans, donc ça fait des fermentations, des bières qui ont très peu de corps à la fin. Puis bon. Rapidement, je me suis mis à lire là-dessus, puis je suis vraiment tombé dans. Tu sais, il y a quelque chose de culturel, il y a question d'économie, il y a de la politique dans la bière au fil des années. Évidemment, il y a beaucoup de science en arrière de ça. Fait que c'est vraiment tout ça ensemble m'a tout de suite fasciné. Fait que je suis vraiment mis à brasser à chaque semaine de la bière, passer au grain au lieu de laisser des extraits. Puis, on était au début de la scène de la microbrasserie à Montréal à cette époque-là. Le Châle Blanc était déjà là, qui était déjà un peu hors norme. Faisait ses... Je suis pas des styles exactement établis. Il faisait son style à lui, puis ça me plaisait. J'aimais la vibe de la place. J'haïrais pas ça. Je fournissais ma bière souvent dans les parties. Fait que c'est comme mon mini beau pop dans mon salon qui se passait.
J'avais ton cobaye pour tester.
Ouais, un peu, ouais. Fait que tu sais, des affaires qui marchaient bien, puis ça m'a donné un peu. C'est ça que je veux faire au lieu de travailler dans un lab de recherche, tu sais. Puis par chance, j'ai rencontré quelqu'un, Stéphane, qui est toujours un de mes associés, qui aimait ma bière, puis que lui, il a peut-être plus la fibre entrepreneuriale que moi. Puis il a dit, écoute, si ça te tente, moi, ça me tenterait. Voilà.
Et vous êtes lancé ouais. ici même où on se trouve.
Ouais, sur Laurier. Au départ, on a vraiment voulu partir comme un brewpub. Surtout à cette époque-là, quand même, les microbrasseries, c'était difficile, beaucoup fermé. Trouver de la place sur les tablettes, c'était difficile.
Donc là, on est dans les années 90, c'est ça?
Milieu des années 90. T'sais, début des années 90, il y a eu une des premières microbrasseries qui ont réussi à trouver une niche, mais en milieu des années 90, c'était plus dur. Fait que nous, non, brewpub, on vend sur place, on n'a pas d'étiquette à faire, pas de distribution, on a très peu d'expérience d'affaires aussi. Donc, c'était vraiment le concept qui était le mieux pour partir
on
du moins.
On pouvait consommer donc que la bière de Dieu du ciel sur place.
Voilà. Ça. Fait que nous, notre marketing, c'était une crêpe et un tableau noir. Et voilà. Puis en plus, ben volontairement, on a choisi un équipement de brasserie qui était seulement de 500 litres, alors que la plupart des brewpub travaillaient souvent en 1000 litres. Mm-hmm. Nous, on avait choisi un équipement plus petit pour justement brasser plus souvent. Donc, d'avoir plus de diversité sur le menu, puis pouvoir plus expérimenter sans dire j'ai 1000 litres à passer, puis ça m'a coûté de l'argent, puis tout ça. Fait que c'était vraiment un choix au départ, puis qui nous a bien servi, parce que c'est pour ça qu'on a pu se lancer dans toutes sortes de bières un petit peu éclatées, puis vraiment perfectionner ce qu'on fait, puis aussi faire pas juste des bières anglaises, pas juste des bières allemandes. On a vraiment touché un peu à toutes les traditions, puis tranquillement, pas vite, mais on a un peu défini un peu la bière Nouveau Monde, donc nord-américaine, mm-hmm. québécoise, si on peut dire.
Est-ce que tu te souviens, c'était quelle bière que tu as brassée en premier ici?
Ici,
ou les premières bières,
ouais,
peut-être?
Ici, en fait, on est parti avec un menu qui ressemblait beaucoup à ce que je brassais comme bière maison, mais qu'il fallait quand même... On avait une extra pale ale, ça prenait une blonde au menu quand même, mm-hmm. Donc les rousses étaient très populaires, fait que j'avais la Voyageur des Brumes qui était une ISB, dans le fond.
Qu'on retrouve toujours maintenant.
Qu'on retrouve toujours, ouais. Effectivement, là, on la brasse toujours. La blonde, elle a beaucoup plus changé, mais on est plus sur une kölsch, en fait. Mm-hmm. Et puis, on avait la cornemuse, une scotch ale. Les gens aimaient beaucoup les bières, tu sais, beaucoup de caramel dans ça, ouais. Ça marquait. Puis, tout de suite, on a quand même commencé avec la rigueur mortis, qui est une trip d'inspiration monastique, si on peut dire, mm-hmm. Qu'on fait toujours. Ben, maintenant, on fait surtout la quad au niveau de la distribution, qu'on peut peut-être retrouver en France de temps en temps. Mais ici, on fait la trip, on fait la blonde de temps en temps. C'est une famille de bières un peu, là, où je me prétends être moine, mais je suis pas toutes les règles, mais c'est bon, c'est la vie. L'important, c'est que la bière est bonne.
Oui, c'est ça. C'est ce qu'eux, ils s'engagent à faire. Et peut-être vœu de silence avec ça, mais...
Ouais, ça, c'est bon. Ça, c'est plus dur pour moi.
Et est-ce que c'est toujours le même équipement qu'il y a... Là, moi, je le vois, il est en face de moi, l'équipement du brewpub, mais où il a changé un petit peu?
On a seulement rajouté des cuves de fermentation, des cuves de garde. L'équipement original... Le Mashton puis la Bloire, c'est la même.
C'est la même, oui.
le Mashton a perdu quelques lattes de bois avec les années. Ah. On a patché du stainless, mais c'est plus facile à laver, c'est ce qu'on s'est rendu compte beaucoup d'ailleurs. Oui. C'est bien cute le bois, mais bon.
Mais oui. Ça met du cachet.
Ça met du cachet, mais non, c'est ça. Fait que oui, 23 ans de dur labeur. Oui.
Et donc, vous produisez toujours là maintenant. Il y a une équipe que j'ai vue qui était en train de travailler là. Et combien de bières ou combien d'hectolitres sont produits ici à Montréal?
Ben ici à Montréal, grosso modo, là, avant qu'on ouvre la microbrasserie Saint-Jérôme, on avait produit à coup de 500 litres, on avait monté jusqu'à 950 hectos, oui, dans une année. On achetait de la bière blonde, entre autres, là, parce qu'on ne fournissait pas, là, mais puis on se concentrait plus sur nos bières spécialisées. Puis quand on ouvre la micro, ben sur certaines bières régulières, on allait chercher à micro. Puis ici, on se concentrait plus sur le recherche-développement, des bières qu'on fait moins... ce qu'on peut faire plus souvent ici, parce que l'enjeu n'était pas une distribution. Dans ce cas, à Saint-Jérôme, peut-être on faisait une fois par année, puis après, on passait à une autre bière. Donc, on a baissé plus à du 500, 600, 700 hectos, là, dépendant des années, puis qu'on comblait avec la brasserie Saint-Jérôme. Puis là, présentement, on roule un peu avec ça, parce que, bon, comme évidemment, avec la pandémie, notre capacité était limitée, on est presque autosuffisant à Montréal, un peu comme dans le bon vieux temps. Là.
Ah, ça, c'est réconfortant. Ouais. Mais justement, donc là, tu mentionnais la microbrasserie à Saint-Jérôme, donc là, c'est à l'extérieur de Montréal. Ouais. Et à quel moment vous avez décidé là, de sortir de Montréal, d'aller vous installer à l'extérieur et de vraiment créer un endroit de production pour les bières?
Ouais.
Et je pense que tu disais que vous êtes devenu embouteilleur maintenant, c'est ça?
Ben, embouteilleur, ouais. Ben, plus canetteur maintenant.
Canetteur, ouais, plus, oui. Mais au lieu d'avoir donc tout qui était en pression au brewpub de Montréal. Maintenant, on peut les retrouver ailleurs, c'est ça?
Ben, c'est arrivé, mettons l'idée, là, un peu de. En 2002-2003, même si on rachetait les fermenteurs, là, c'était difficile d'être autosuffisant ici. Comme tu as mentionné, tu es déjà passé ici, puis la place était pleine à craquer.
Oui.
On vendait beaucoup de litres au pied carré. Un pied carré, c'est 10 fois moins qu'un mètre carré, pour ceux qui ne savent pas. fait que, donc, c'est beaucoup de litres au pied carré, c'est beaucoup de bière. Donc, c'est ça. Fait qu'on commençait à avoir l'idée un peu de ouais, OK, ben, moi, un micro, il y avait des micros qui partaient. On trouvait que des fois, la qualité était comme, c'était pas terrible toujours. Puis, à un moment donné, ben, t'as le goût de prochains défis. Tu sais, ici, on avait des lois qui nous limitaient, en fait, que les gens sortent avec de la bière. Puis, à un moment donné, ben, tu te dis, ben, moi, OK, t'as comme le goût d'atteindre, tu sais, ici, on rentre 115, 120 personnes ben tassées. Ben, t'as le goût de parler à plus de monde. Ben, il y a un peu cette idée-là, qui est arrivé un nouveau défi, plus le besoin d'avoir plus de bière aussi, puis ça serait le fun que ce soit une autre qu'à faire. Fait que, on a tenté une espèce de joint venture avec Micro qui est en difficulté. Bon, ça, on a vu un peu comment ça se passait, mais on a dit, bon, on n'ira pas dans cette direction-là. On s'est plus enligné qu'on va partir un projet de Micro. Ce qui est arrivé, bon, idéalement, je voulais. Par contre, je voulais pas une usine. C'est juste qu'on fait juste de la bière et c'est tout. Moi, j'ai besoin d'avoir du monde autour de moi.
De rencontrer les clients, d'en parler.
Ça. Donc, c'était clair qu'on voulait trouver un local industriel, mais qu'on pourrait avoir un pub, mais puis pas être dans un quartier industriel où il n'y a personne qui vient, où il faut que tu viennes en auto, puisque boire de la bière en auto, il y a comme une contradiction. Mm-hmm. Et donc, fait qu'on cherchait des endroits un peu à Montréal. À ce moment-là, les règlements d'urbanisme étaient vraiment compliqués. On a cherché un peu dans la première couronne, là, donc les villes initialement au nord ou au sud, pas vraiment trouvé. Puis, avec les partenaires, parce qu'on a rajouté des partenaires pour ce projet-là, qui avaient d'autres compétences que nous, on avait peut-être moins là, pour faire ce deuxième projet-là. Puis, ils nous ont parlé d'une épicerie, en fait, qui fermait dans le centre-ville de Saint-Jérôme. Saint-Jérôme, c'est une petite ville d'à peu près 75 000 habitants, grosso modo, qui a un cégep proche, donc c'est un niveau collégial. Puis, il y a un petit campus universitaire satellite de l'université de régionale. Puis, c'est une ville administrative, donc il y a du monde, il y a des spectacles, des choses comme ça.
Mais c'est pas très loin de Montréal non plus?
C'est environ une cinquantaine de kilomètres,
voilà,
une demi-heure de ride. Puis, il y a un train de banlieue qui se rend là. Donc, c'est ça. Fait que c'est jouable. Fait qu'on a dit, OK, ben pourquoi pas? T'sais, puis, on était vraiment dans le centre-ville de Saint-Jérôme. Fait que ça correspondait un peu à ce qu'on cherchait comme local. Alors, voici pourquoi on s'est retrouvés à Saint-Jérôme. Et moi, je reste toujours à Montréal, d'ailleurs. T'sais, fait que c'est sûr qu'au départ, j'ai dit, OK, ben, c'est plus loin que je pensais. Mais bon, tout fait compter, c'était une bonne idée parce qu'il n'y avait rien dans cette ville-là. C'est une ville qui change beaucoup, en fait, aussi depuis une quinzaine d'années. Mm-hmm. Donc, on a ce deuxième satellite-là qui d'ailleurs, on vient d'agrandir le pub parce qu'on a bien joué, parce qu'au départ, on ne savait pas trop si ça allait fonctionner, notre pub là-bas. Il fonctionnait très bien au point qu'on l'a agrandi, on l'a amélioré, on a augmenté la superficie de la terrasse. On s'est vraiment bien taillé une place là-bas et puis c'est vraiment cool.
Puis une bonne unité de production pour maintenant produire des bières qu'on retrouve même en France. Donc, nous, on est contents.
Oui, ben c'est ça. Effectivement, là-bas, c'est comme une petite grande brasserie, là, si on peut dire, au niveau du volume. Assez grande pour... assez petite pour être flexible, vraiment être campé sur des styles un peu plus typiques, je pourrais dire. On n'est pas obligé d'atteindre nécessairement tout à fait la bière de masse. C'est pas totalement ce qui m'intéresse. Mais assez grande, justement, pour pouvoir bien fournir le Québec, le Canada, les États-Unis. Puis, effectivement, comme tu as dit, on est en Europe, surtout en France. C'est probablement notre plus gros marché en Europe. Là, on est bien content d'être là. Ça nous donne un beau prétexte pour faire des voyages.
Exactement. On a bien hâte de te raccueillir à Lyon bientôt, j'espère. Et puis récemment, j'ai également remarqué un changement d'identité visuelle pour Dieu du Ciel. Donc, comme tu disais, ça fait déjà plus d'une vingtaine d'années que la brasserie existe. Et il y avait une identité avec... j'ai envie de dire un ange un petit peu très lié, très spirituel comme identité. Et puis là, un changement beaucoup plus graphique, beaucoup plus moderne. Est-ce que... je suis sûr, les gens n'aiment pas le changement, donc tu as dû avoir des remarques assez...
c'était la journée du lancement, c'était une journée assez rock'n'roll, mais on s'en attendait un peu. Puis bon, maintenant, on dit toujours en parlant bien ou en mal, mais il faut en parler.
C'est ça.
Mais c'était un choix. Je dis pas que moi, puis Stéphane, un peu, nous, on était un peu attachés à notre vieille image. Mais bon, c'est un peu le contact qu'on avait. C'est notre équipe graphique qui travaille avec une nouvelle étiquette qui dit, OK, l'ancien logo, il est dur à intégrer, il est dur à... dans les festivals, ben, il y a de la concurrence maintenant, il y a beaucoup de brasseries. il faut quand même se faire avoir tout ça. Donc, il y avait un enjeu. Donc, puis il y avait un enjeu aussi de trouver d'autres noms. Oui, effectivement, le terme Dieu du ciel vient beaucoup Dieu du ciel, que c'est bon avec l'expression, mais il y avait un clin d'œil un peu avec notre culture très, très catholique au Québec. Et pourtant, qu'il n'y a jamais eu de moines trappistes qui ont brassé ici. Mais alors, puis moi, je trippais vraiment ces bières trappistes belges. Fait que c'est un peu un clin d'œil à ça, le nom, originalement. Puis oui, puis les premiers noms étaient très romantico-poético-religieux, on pourrait dire. Puis bon, une année, tu fais le tour de la question. Puis bon, parce qu'au nombre de bières qu'on a. Fait que c'est sûr que d'arriver avec une nouvelle image graphique, ça facilite le travail avec les étiquettes. Parce que c'est sûr, avant, comme pub, je pouvais penser n'importe quel nom, puis je le mettais, puis c'était correct.
Mais c'était l'ardoise.
Tu fais un nom, tu fais comme, ah merde, maintenant, s'il faut faire une étiquette, ça c'est compliqué, là, tu sais. Oui. Fait que bon, c'est un enjeu différent à penser. Fait que oui, il y a une grosse retravail de l'image, du logo aussi.
Passage en canette aussi sur beaucoup de bières.
C'est ça. Donc, à cause, la force du marché nous amène vraiment à la canette. Donc,
on n'y est pas encore en France, on travaille, mais il y a encore une image compliquée de la canette
en France. Oui, je comprends la valence des gens, mais ici, c'est full on. Donc, il y a plus d'espace sur une canette à remplir, tout ça. Fait que oui, c'était un... On a fini par se rallier. Je regardais ça, c'est comme, OK, ouais, il est temps, j'étais prête un peu à faire le mou. ça a créé beaucoup de vagues, tu sais. Des deux côtés, mais bon, comme tu l'as mentionné, des fois, c'est juste un changement qui choque.
Puis après, du moment que la bière change pas, c'est bon.
Non, c'est ça. Puis moi, OK, mais la bière est bonne, pareil, c'est correct. Puis tranquillement, on va vite, on se dit, c'est-tu bon? OK, ça va. Puis, en tout cas, d'un point de vue des ventes, clairement, c'était un bon choix.
C'était Sur le comptoir de Lisanne, un podcast Ninkasi Stories. Dans le prochain épisode, nous poursuivons notre discussion avec JF sur leur bière emblématique. Merci pour votre écoute, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un commentaire et 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée et de partager cet épisode avec un ou une amie que cela intéresserait. Je compte sur vous, à la prochaine !